Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois, nous retrouvons Pascal Maguessian, venu présenter un ouvrage richement illustré, Mésopotamia, une aventure patrimoniale en Irak. Un livre qui rassemble des photographies anciennes et contemporaines pour une soixantaine de monuments de la plaine de Ninive, de la région autonome kurde, de Kirkouk, un peu plus à l'est, et jusqu'à Bagdad. Pascal, bonjour.
Bonjour Sébastien de Courtois.
Alors c'est une enquête minutieuse que vous avez menée depuis plusieurs années par le biais d'une association que vous avez vous-même fondée, qui s'appelle Mésopotamia. Vous allez nous dire un petit peu plus sur vos activités. Nos chemins se sont croisés à plusieurs reprises sur les sentiers de l'Orient chrétien, voilà, depuis toutes ces années, que ce soit en Turquie, en Syrie, au Liban ou en Irak, ou parfois même virtuellement et par nos travaux respectifs. Voilà, je suis votre travail, vos explorations que nous apprécions énormément. Quand je dis nous, c'est notre communauté d'auditeurs de France Culture, de Chrétiens d'Orient. Voilà, vous étiez venu il y a quelques années et ça fait trop longtemps que je ne vous avais pas reçu.
Eh bien, merci de me recevoir à nouveau.
Alors, ce projet Mésopotamia, un très très beau livre, je dois dire, disponible dans toutes les bonnes librairies aux éditions Première Partie. Comment est né ce projet ?
Alors, l'association est née en mai 2017 d'une volonté de prendre soin du patrimoine de la même manière que l'on prend soin des hommes. Puisque Daesh a ciblé entre 2014 et 2017, pendant la période d'occupation de la plaine de Ninive et de Mossoul, Daesh a ciblé des communautés humaines et leur patrimoine, c'est-à-dire a ciblé des civilisations. Donc le soin que nous pouvons apporter à travers nos associations aux êtres humains, nous devons aussi l'apporter au patrimoine, pour permettre à ces communautés de restaurer leur dignité par la restauration patrimoniale ou plus simplement par la valorisation de leur patrimoine. Donc l'association Mésopotamia est née de cette volonté partagée avec la Fondation Saint-Irénée du diocèse de Lyon. Et puis le livre intervient un petit peu comme un point d'orgue de l'engagement qui est le nôtre depuis presque 4 ans. Mésopotamia, une aventure patrimoniale en Irak, est édité aux éditions Première Partie en 3 langues, français, anglais et arabe, pour rejoindre toutes les communautés linguistiques intéressées par le patrimoine mésopotamien. D'abord et prioritairement les Irakiens eux-mêmes, les Irakiens d'Irak, mais aussi les Irakiens de la diaspora, mais aussi l'ensemble des personnes curieuses et intéressées par la culture mésopotamienne, qu'elle soit de langue française, de langue arabe ou de langue anglaise. Alors, et ce livre nous a été demandé. Il nous a été demandé puisque depuis presque 4 ans, nous réalisons un travail d'inventaire sur un site internet, mésopotamiaheritage.org. Nous organisons des conférences, nous organisons aussi des expositions. Et au fur et à mesure, nos interlocuteurs nous ont demandé un livre, ce que nous venons de réaliser.
Alors c'est un travail qui a un côté systématique, c'est-à-dire que vous procédez par région, par province ecclésiastique pour ce qui concerne le patrimoine chrétien. Donc vous avez une approche qu'on pourrait dire peut-être universitaire. En tout cas, vous engagez à laisser un héritage, à laisser un témoignage de ces monuments, et une approche aussi artistique parce que vous êtes photographe vous-même.
Oui.
Donc vous avez photographié une grande partie de ces monuments ?
Oui, c'est ça. Il y a une double approche. Il y a une approche que je qualifierais d'académique. Bien que n'étant pas, en ce qui me concerne, architecte ou historien du patrimoine ou archéologue, je fais œuvre, malgré tout, je fais œuvre d'histoire et avec un niveau d'exigence assez élevé À tel point d'ailleurs que ce que nous publions sur notre site internet et dans ce livre est validé par un comité scientifique, composé de plusieurs personnalités du monde universitaire, que ces personnalités soient françaises, belges ou même irakiennes. Donc il y a une volonté académique très claire, mais aussi il y a une volonté de rendre accessible au grand public ce travail entre guillemets académique. C'est pourquoi nous présentons, avec chaque notice patrimoniale, nous présentons systématiquement une sélection de photographies pour permettre au grand public d'entrer, non pas forcément à travers le texte, mais d'entrer à travers la photographie. Et ça nous semble tout à fait complémentaire.
Alors je vois que beaucoup de communautés sont citées, les Syriaques catholiques, les Chaldéens, les Syriaques orthodoxes, les Yézidis, les Juifs, les Arméniens, les Assyriens et les Dominicains. Quel est le lieu peut-être qui vous a le plus marqué? J'ai vu par exemple vos images sur la Lèche, qui est ce site sacré des Yézidis.
Oui, alors la Lèche est bien plus qu'un site sacré. La Lèche est le lieu spirituel par excellence de la communauté Yézidi, qui est une communauté nationale et confessionnelle, puisqu'il y a fusion entre la communauté et sa confession. Et c'est une communauté tout à fait autochtone, parfaitement irakienne, née en Irak, née en Mésopotamie, et qui s'épanouit en Irak et à travers des communautés satellites dans plusieurs pays des environs. Et donc, la Lèche est le centre spirituel par excellence, qui se trouve à la lisière, à la frontière, de la province de Ninive et du Kurdistan d'Irak. Et c'est un lieu qui est magnifique, qui n'a pas été occupé par Daesh, et fort heureusement. Et c'est un lieu où viennent les Yézidis du monde entier, les Yézidis d'Irak, mais aussi les Yézidis de diaspora. Ils y viennent naturellement pour se ressourcer spirituellement.
Un lieu dédié à l'eau, au feu ?
Oui, le feu et le soleil, puisque ces deux notions sont tout à fait liées, sont tout à fait consubstantielles de la théologie yézidi, puisque c'est une théologie qui puise ses racines dans le zoroastrisme. Le zoroastrisme qui pratiquait le culte du feu, et bien les yézidis sont monothéistes. Et l'expression visible de Dieu, c'est le soleil. C'est le soleil. C'est la raison pour laquelle les yézidis prient systématiquement orientés vers le soleil. Et c'est aussi la symbolique du feu, qui est l'expression même de la lumière à travers ces petites flammes que les Yézidis brûlent abondamment chaque jour dans tous leurs monuments. Et c'est vraiment quelque chose de très délicat et de très beau à voir. Une communauté monothéiste qui pratique une forme de compassion universelle, puisque c'est une communauté qui prie d'abord pour le monde et ensuite pour elle-même. C'est une communauté qui a souvent été stigmatisée, persécutée, traitée notamment d'adorateurs du diable, parce que ils craignent le diable, et craignant le diable, ils ont été stigmatisés comme adorateurs de ce même diable. Et par ailleurs, comme il s'agit d'une communauté assez secrète, difficile à pénétrer de l'intérieur pour un observateur étranger, leur caractère un peu secret les a condamnés à une forme de stigmatisation au long des siècles. Et jusqu'au début du XXe siècle, d'ailleurs jusque même tout récemment à l'époque de Daesh, on les accusait encore d'être des adorateurs du diable. C'est la raison pour laquelle ils ont été tout particulièrement persécutés et spécifiquement victimes d'un génocide sur le massif de Sinjar.
Comment ces communautés vous ont accueilli au cours de vos reportages, au cours de vos déplacements justement pour photographier leurs monuments ?
Oui. Avec une grande joie. Avec une grande joie parce que, quels que soient les traumatismes que ces communautés ont subis, et je parle des communautés ciblées par Daesh, c'est-à-dire les communautés chrétiennes et les communautés yézidis, ce sont des communautés qui ont besoin de sortir de l'ornière historique dans laquelle elles se trouvent. C'est la raison pour laquelle, dans chacune des provinces où nous accomplissions nos missions, dans chacun des villages que nous traversions, dans chacune des églises ou dans chacun des mausolées que nous visitions, les communautés locales étaient heureuses et fières de nous présenter ce qui fait l'essence même de leur identité à travers leur patrimoine. Et donc, nous étions nous-mêmes très heureux de cette ouverture et ils nous ouvraient vraiment toutes les portes de leur identité, mais aussi, et en même temps, ils nous partageaient toutes les questions, parfois douloureuses, liées à leur survie dans ce pays. Parce que ce sont des communautés qui ont fondu considérablement depuis la première guerre du Golfe et plus encore depuis la chute de Saddam Hussein en 2003.
Est-ce que ces communautés chrétiennes arrivent à se reconstruire depuis quelques années ?
Oui, mais pas de partout et pas de la même manière. Ainsi, et par exemple dans la plaine de Ninive, on peut considérer que un tiers des communautés chrétiennes est revenu, un tiers est demeuré déplacé dans le Kurdistan d'Irak, et un tiers s'est expatrié. En revanche, à Mossoul, où il y avait des dizaines de milliers de chrétiens, il est clair que, à ce jour, malgré la libération, malgré la défaite de Daesh, il est clair qu'il n'y a qu'une cinquantaine de familles chrétiennes qui est revenue à Mossoul. C'est dire donc le fossé qu'il y a à Mossoul entre ce que cette ville représentait autrefois, une véritable Jérusalem de Mésopotamie, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il y a un véritable espoir, malgré tout, un espoir qui ne peut être lié qu'à la fraternité, qu'au retour de la fraternité entre toutes les communautés, que ce soit les communautés, entre toutes les communautés chrétiennes et musulmanes.
Et surtout qu'il y ait la sécurité, peut-être.
La sécurité, bien sûr. Mais la sécurité est liée au sentiment de fraternité. Et donc, il faut que soit renouvelé ce sentiment de fraternité par des échanges réciproques. C'est très important. Et nous sommes, à travers Mésopotamia, porteurs de cette démarche qui est une démarche humaniste et qui est une démarche fondée sur le bien commun.
Donc le patrimoine vous intéresse dans la mesure où il est associé avec des communautés vivantes ?
Oui. Vous l'écrivez très bien d'ailleurs dans certains de vos livres. Les pierres, les vieilles pierres, lorsqu'elles sont muséifiées, n'offrent aucun réconfort pour le cœur. Les pierres, les vieilles pierres, comme les nouvelles, apportent le réconfort nécessaire aux communautés vivantes qui vivent en relation avec ces édifices. Donc il est important de préserver les unes pour préserver les autres.
Alors quelle est la prochaine étape après ce travail d'inventaire, qui encore une fois est remarquable ? Vous êtes dans la tradition des grands explorateurs de la fin du XIXe siècle, je pense à la mission d'Albert Kahn, sans dire de bêtises, qui avait photographié une grande partie de ces communautés, même filmées dans l'ancien empire ottoman. Voilà, c'est un message pour la postérité, un message peut-être aussi pour les descendants de ces communautés qui vivent en diaspora.
Oui, absolument. C'est non seulement un message, mais c'est aussi notre manière de les remercier. De les remercier pour ce qu'elles ont offert à l'humanité. À travers ce simple livre, à travers les expositions photographiques que nous réalisons, à travers les conférences que nous organisons et le site internet, nous voulons dire toute notre gratitude pour ces communautés qui sont héritières d'une tradition antique, fondatrice de quelques grands principes de notre humanité. Les cités-états, l'organisation agricole, l'irrigation, le système sexagésimal pour le calcul du temps et de l'espace, l'Ancien Testament ou la Bible hébraïque qui a été rédigée en très grande partie en Mésopotamie irakienne, sur les rives du Tigre et également à Ninive. Voilà, tout ce que la Mésopotamie irakienne a offert à l'humanité est malheureusement assez peu connu. Et ce livre a également vocation à faire connaître cet apport culturel magnifique à travers quelques communautés emblématiques, les communautés chrétiennes et yézidis. Mais j'ajoute que nous ne faisons pas simplement qu'éditer des travaux, soit électroniques, soit sous forme livresque. Nous réalisons aussi des travaux concrets sur place. Par exemple, avec l'aide de la Fondation Alif, nous sommes en train actuellement de revitaliser l'oliveraie sacrée yézidi de Bazani, qui a été brûlée par Daesh, puisque Daesh a également brûlé les oliviers sacrés de Bazani.
Alors là, nous sommes dans quelle région exactement ?
Nous sommes dans la plaine de Ninive, près de la ville de Barthéla et de la ville de Bardida, au cœur même de la plaine dite des Syriaques. Et Bazani et Baashika sont deux villes jumelles qui étaient en quelque sorte le centre intellectuel de la communauté yézidi. Et c'était aussi un centre très important de production de l'huile d'olive nécessaire à la cérémonie du feu sacré. Et donc Daesh s'est acharné non seulement sur les édifices yézidis, mais aussi sur le patrimoine naturel que représentent ces 90 000 oliviers qui ont pratiquement tous été brûlés. Donc Mésopotamia travaille avec la Fondation Alif à la revitalisation d'un des vergers de cette région. Et puis, nous sommes attachés au bien commun entre toutes les communautés irakiennes. C'est la raison pour laquelle nous allons bientôt publier un e-book, c'est comme ça qu'on le dit, un livre électronique, qui présentera, sous la plume de Guillaume de Beaurepaire, architecte, qui a vécu 3 ans en Irak, qui présentera un inventaire pratiquement exhaustif de tout le patrimoine du vieux Mossoul. Le vieux Mossoul qui a été copieusement bombardé, d'abord occupé par Daesh, et ensuite bombardé par la coalition internationale pour écraser Daesh.
On se souvient du dynamitage par Daesh de la Grande Mosquée, par exemple.
Oui, absolument. Alors que les forces de la coalition étaient à 50 mètres de l'édifice. Et oui. Et donc, nous voulons aussi participer, contribuer à la révélation de ce patrimoine ancien, musulman, qui était à Mossoul, qui était dans le vieux Mossoul, et qui participait de ce que j'appelle cette Jérusalem de Mésopotamie, qui a été détruite.
Alors je vois aussi que vous êtes en partenariat avec pas mal d'associations, ce qui fait très plaisir, parce que nous les recevons ici dans notre micro de Chrétiens d'Orient. Je vois l'œuvre d'Orient qui est mentionnée. Nous avons reçu aussi les personnes de Fraternité
en Irak,
voilà, qui ont fait un travail mémorable de réhabilitation, de rénovation du mausolée de Marbenham.
Oui. Grâce à Guillaume de Beaurepaire, l'architecte, qui est intervenu pour le compte de Fraternité en Irak, effectivement, Fraternité en Irak, qui mène une action naturellement de valorisation patrimoniale, mais aussi qui soutient le développement économique des populations revenues, des populations chrétiennes qui sont revenues dans la plaine de Ninive, grâce notamment à du microcrédit. Voilà. Et donc nous louons l'action de Fraternité en Irak, tout comme nous louons l'action d'un certain nombre d'organisations, comme la Fondation Saint-Irénée, comme l'œuvre d'Orient que vous avez citée, comme la Fondation Alif. Voilà. Il y a véritablement, et Solidarité Orient, il y a véritablement là aussi une forme de fraternité universelle.
Oui, j'allais dire un élan, et un élan qui va dans la même direction.
Un élan amical.
Un élan amical. Et d'intelligence, de travail en commun et de partage aussi.
Oui, pour montrer qu'un avenir est possible.
Un petit point sur cette ville d'Alkosh que nous connaissons, en tout cas pour en avoir entendu parler, Alkosh et Karakosh, mais j'aime particulièrement Alkosh parce qu'il y a donc cette ville chaldéenne, chrétienne d'Orient en grande partie. Je crois même qu'Alkosh, elle n'est que chrétienne encore. Il y a ce monument qui appartient à la grande tradition juive de Mésopotamie, qui est absolument étonnant, la tombe du prophète Nahum.
Oui, absolument. La tombe du prophète Nahum. Nahum était l'un des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. On dit qu'il a vécu à Alkosh. Et il est clair que la communauté chrétienne chaldéenne, anciennement assyrienne de l'Orient, qui vit à Alkosh, est une communauté qui, pour l'essentiel, était d'origine juive. Et ce sont donc probablement des communautés juives locales qui ont été converties au christianisme grâce aux différents missionnaires qui sont passés dans cette région. Et je pense notamment à Saint Thomas, Martouma, dit-on en Irak. Mais je pense aussi à d'autres missionnaires évangélistes, les apôtres du Christ, certes Saint Thomas, mais aussi Thaddée et Barthélemy, qui ont évangélisé cette partie-là de la Mésopotamie. Et donc il y a une continuité depuis l'Antiquité qui est présente sous nos yeux. Et quand vous discutez avec les Alkoshiens, ils vous disent eux-mêmes qu'ils sont les descendants des communautés juives anciennes. Et j'avoue que tout cela est résumé à travers ce magnifique monument, la tombe du prophète Nahum et la synagogue qui l'entoure. Et j'avoue que c'est vraiment une magnifique leçon d'histoire, et c'est aussi un magnifique édifice qui est actuellement en cours de restauration. La restauration est quasiment achevée, mais je suis heureux de pouvoir dire que dans cette région qui n'a pas été atteinte par Daesh, je suis heureux de pouvoir dire que dans cette région, il y a encore une communauté vivante qui tient absolument à demeurer sur sa terre ancestrale et qui tient à préserver l'histoire et la mémoire de cette terre. Si vous avez la possibilité un jour d'aller à Alkosh, vous-même Sébastien, vous la connaissez, mais les auditeurs aussi, je vous invite absolument à discuter avec ces communautés, à boire le thé et à visiter la tombe du prophète Nahum, mais aussi deux grands monastères qui se trouvent à côté de la tombe du prophète Nahum. C'est le monastère Notre-Dame des Moissons, construit au XIXe siècle, et également le monastère de Rabban Ormist, qui est un petit peu plus haut, perché dans la montagne, et qui fusionne littéralement avec le minéral, avec la pierre.
Qui est sur sa colline, effectivement, on se souvient d'une petite route pour y accéder. Un autre endroit qui m'avait frappé, c'était le monastère des Syriaques orthodoxes, qui est un petit peu plus haut dans la montagne. Est-ce que vous avez pu le visiter,
celui-là ? Absolument, c'est le monastère de Marmata, sur le mont Makloub. ou le mont Al-Faf en arabe, que les communautés locales syriaques orthodoxes appellent la montagne des milliers, puisqu'il y avait autrefois, dit-on, à l'époque médiévale, des centaines de monastères. Je ne suis pas en capacité de vous dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tous les cas, des centaines d'ermitages, assurément. Et il y avait aussi, sur cette montagne, des milliers de moines. D'où son nom, la montagne des milliers. Et de tout cela, de toute cette histoire, il reste aujourd'hui ce monastère emblématique qu'est le monastère de Marmata, le monastère de Saint-Mathieu.
Et qui est toujours occupé par une communauté ?
Oui, une petite communauté de quelques moines, qui sont les descendants de cette longue lignée historique que vous connaissez bien, puisque c'est une lignée historique que l'on retrouve également dans le Tour Abdin, avec ces grands monastères du Tour Abdin que vous avez exploré.
Est-ce que les monastères sont protégés actuellement
ou... Oui, alors Daesh était à 4 km du monastère de Marmata, tout comme il était à 4 km du monastère de l'Abba Normiste à Al-Kosh. Donc les forces de la coalition ont protégé ces sites par des bombardements préventifs. Et actuellement, naturellement, les accès à ces monastères et ces villages sont contrôlés, mais assez sommairement.
Est-ce que vous savez si les pèlerins reviennent depuis les grandes villes vers les monastères ?
Oui. Oui, le pèlerinage, la tradition des pèlerinages monastiques est maintenue, est préservée, est même nécessaire. Et je dirais même qu'elle est vitale pour ces communautés qui veulent absolument rester en Irak. Voilà. Il est important de pouvoir respirer et prier dans ces lieux qui invitent ces communautés et ces personnes à sortir du contexte économique morose dans lequel elles survivent dans leurs villes et villages respectifs.
Merci beaucoup Pascal Maguessian.
Merci à vous Sébastien Courtois.
Je rappelle le titre de votre livre, Mésopotamia, une aventure patrimoniale en Irak, aux éditions Première Partie. Je remercie François Connac, Claire Poinsignon et Dofar Guéride pour la réalisation et la technique de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant sur France Culture. Bon dimanche.